J'ai refusé totalement cette
Bonjour et bienvenue à l'écoute de parole aux auditeurs. Le gouvernement s'est désengagé de prendre en charge le différentiel sur le prix réel du carburant et le prix pratiqué à la pompe. La conséquence, le prix du carburant connaît une hausse de près de 20%. Par exemple, à Kinshasa actuellement, le litre d'essence se vend à 1150 et 1140 pour le gazoil, contre 980, 970 francs. À Kisangani, à Mbujimayi, dans d'autres villes de la RDC, faudrait ajouter le prix de transport de ces produits. Le litre qui se vendait à près de 1300 francs avoisine en moyenne les 2000 francs. La décision du gouvernement est prise suite aux exigences des bailleurs de fonds qui estiment que le gouvernement doit trouver des ressources supplémentaires pour son budget national. Il faut noter que le budget de l'État congolais dépend souvent de plus de 45% des partenaires extérieurs. Cette hausse de prix des produits pétroliers entraîne l'augmentation des prix du transport et du coût des produits alimentaires et ceux de première nécessité. Quelle est votre opinion à ce sujet? Nous avons invité pour vous M. Dieudonné Sikiri-Alimassi, le directeur de cabinet du ministre de l'Économie nationale. Pierre Lamézi et Nicole Ndiaka sont à la réalisation de cette émission et Eric Sidiakala est à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour, aujourd'hui nous allons échanger sur cette hausse de prix que connaissent les produits pétroliers et à travers tout le territoire national. Quelle est votre opinion à ce sujet? Si vous voulez vous exprimer, vous n'avez qu'à composer le 081-890-6315, le 081-890-6315, ou nous écrire à partir de notre adresse internet pa@radiookapi.net. Bonjour Kambali.
Bonjour, maman journaliste.
Vous êtes à Lubumbashi. Vous aussi, vous avez connu cette hausse de prix?
Oui, effectivement, le prix est le même. Il est changé à la hausse. Alors, moi, mes préoccupations sont les suivantes. Je demande si, pourquoi la stabilité de la monnaie nationale face à la monnaie étrangère qui n'a je pense que c'est ce qui est à l'origine du déséquilibre de la monnaie. Du déséquilibre de l'économie congolaise, ça c'est la première. La seconde, c'est qu'est-ce qui manque à notre gouvernement pour que lui-même extende ce propre pétrole et ne pas se faire manger à l'extérieur. Et la troisième préoccupation est de savoir pourquoi toujours notre gouvernement instaure toujours une position de faiblesse face un bailleur extérieur pour approfondir la misère de ce peuple. Je crois qu'il est grand temps de mettre les choses au sérieux pour notre gouvernement, que de chaque fois opter pour les décisions de bailleur et que d'agrandir la misère au pays. Je crois que c'est ça ma contribution.
Merci beaucoup, Kambale. Vous estimez que cette hausse de prix est liée à l'instabilité de la monnaie, mais là, comme je l'ai dit en introduction, c'est tout simplement que le gouvernement a pris la décision de pouvoir arrêter de payer le différentiel sur le prix réel du carburant. C'est pourquoi automatiquement ça augmente. Et vous souhaitez, par exemple, qu'on puisse nous-mêmes extraire nos produits pour pouvoir avoir nous-mêmes dépendre de nos capacités, mais aussi vous pensez que la RDC est toujours en position de faiblesse parce que là, l'exigence des bailleurs de fonds, ça ne permet pas, selon vous, à la RDC de pouvoir prendre prendre certaines décisions et vous pensez que cela a un impact sur la pauvreté que connaissent les Congolais en RDC. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais signaler que notre invité, M. Dedonné Fikiri Alimati, il est déjà au bout du fil. Bonjour, M. Fikiri. M. Fikiri, le temps que nous puissions recontacter notre invité par Pierre Lamégie qui est à la réalisation. Entre-temps, nous avons Arsène de Tukwit. Bonjour Arsène.
Bonjour madame.
Oui Arsène, on vous écoute. Quelle est votre opinion en rapport bien sûr à la hausse des prix du produit pétrolier?
Ok, merci beaucoup madame. Il y a une fois, nous sommes passés sur cette tribune que je appelais notre parlement. J'ai énoncé une théorie. Il faut contrôler les gens qui sont appelés à contrôler. Si nous laissons nos gouvernants nous amener comme ça, en tout cas, nous ne faisons que subir des répercussions. Il y a des histoires qui se passent avec nos gouvernants que, de fois, c'est incompréhensible. Comment ça peut-il se faire que notre gouvernement a beaucoup de faiblesses du côté financier et le même gouvernement qui sent cette faiblesse-là du côté financier va prendre des responsabilités qu'il ne sait pas tenir pendant longtemps. Maintenant, on se retrouve devant un fait accompli. Ce n'est pas venu d'eux-mêmes, on les a poussés. Écoutez, vous ne pouvez plus faire ça parce que. Maintenant, c'est la population qui doit subir, madame. Moi, la première préoccupation, ce sont les répercussions. D'abord, les répercussions de cette hausse de prix du carburant. Le transport va augmenter. Le denrées alimentaires vont augmenter. Alors, de pauvres gens qui ne savent même pas qu'est-ce qui s'est passé vont être surpris brusquement. Non, nous avons changé pour telle raison, nous ne prenons plus en charge. Mais quelle est la charge maintenant que le gouvernement va prendre? Tout ça pourquoi? Parce que nous ne savons pas générer nos ressources intérieures. Trouver de l'argent d'abord sur place pour couvrir d'autres frais. Demain, aujourd'hui c'est le carburant. Demain, on risque d'être buté avec les produits pharmaceutiques. Et après demain, c'est la sécurité. Ainsi de suite. Donc, moi, pour moi, je préférerais bien que nos gouvernants, qui, de fois, sont des histoires sans nous informer, doivent d'abord nous informer. Voilà comment est-ce que nous sommes organisés. Voilà comment nous travaillons. Comme ça, nous, la population, nous pouvons prendre des mesures indispensables pour que demain nous ne soyons pas plus surpris par des mesures telles que cette mesure qu'on vient de nous présenter actuellement.
Oui. Alors. Oui, en fait, il y avait autre chose que vous avez soulevé. Vous parlez du contrôle du gouvernement, mais vous savez très bien que c'est l'une des prérogatives du Parlement.
Ok, malheureusement, nous, notre Parlement n'a pas assez de force. Hein, notre Parlement, madame, vous, en tant que présidente du Parlement, moi, je dirais ceci, madame. Contrôler le gouvernement. Comment nous contrôlons le gouvernement? Moi, tel que maintenant, je ne peux que contrôler le gouvernement en disant ce qu'ils sont en train de dire. Mais ceux qui ont la charge, ceux que nous avons élus, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, ils sont distraits. Ils sont en train de voir l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer. Ils ne peuvent pas, jusque-là, depuis la hausse du prix du carburant. Quel est le député qui est parti voir le gouvernement ou bien annoncer à la population, voilà les méfaits, voilà les bienfaits de cette décision? Je ne trouve que pas ça. Moi, je suis à la radio régulièrement, mais je n'ai pas entendu un parlementaire le dire.
Bon,
Donc, madame, nous devons faire un effort pour contrôler nos gouvernants, contrôler ceux qui nous contrôlent.
Merci beaucoup, Arsène de Kikwit, pour votre intervention. Nous allons prendre Jean-Marie Douvira, mais encore une fois, je signale que notre invité est cette fois-là au bout du fil. Il s'agit de M. Dedonné Fikiri Alimati. Bonjour, M. Dedonné Fikiri.
Bonjour madame.
Enfin, on a pu vous recontacter. Vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale et avec vous, nous allons échanger au cours de cette émission en ce qui concerne la hausse des prix des produits pétroliers. Déjà, là, on est en train d'écouter les auditeurs de ce qu'ils pensent de cette hausse de prix. Et tout juste après Jean-Marie, nous allons revenir à vous, monsieur Fikiri. Le temps d'écouter Jean-Marie. Bonjour. Jean-Marie,
bonjour,
vous êtes à Ouvira et vous aussi, bien sûr, vous avez connu cette hausse de prix.
Oui, madame, depuis le jour que le ministre avait continué la hausse de prix, la litre s'est vendue à 1 1.3 à la pompe.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, la liste se vend à 1.5 à la pompe.
Et quelle est votre opinion à ce sujet? Bien sûr, le ministre avait signalé, hein, parce que le gouvernement s'est désengagé de prendre en charge le différentiel sur le prix réel du carburant et le prix pratiqué à la pompe. C'est pourquoi il y a eu cette augmentation de prix. Mais que pensez-vous à ce sujet?
Madame, nous regrettons une situation personnellement. Le même prix, le même produit, paye les taxes douanières. On a encore importé les taxes de la fournière. Encore, on veut rehausser le prix, les conséquences à la population. Nous demandons, est-ce que les travaux des élus, qui sont les représentants du peuple, les contrôleurs, de faire le suivi de notre gouvernement. Vraiment, madame, nous regrettons de cette personne. Il va être un gouvernement élu du peuple pour défendre les intérêts du peuple, pour sauvegarder le peuple, pour bien gérer le peuple. Nous regrettons vraiment cet gouvernement.
Merci beaucoup, Jean-Marie. Vous êtes au Vira, vous dites qu'en fait vous pensez assister parce que les prix augmentent et vous n'êtes pas préparé. Vous regrettez que vous ne vous retrouvez plus à travers vos représentants que vous avez vous-même élus. Merci pour votre participation.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, monsieur de Denis Fikiri. Comme je l'ai dit, vous êtes notre invité et vous êtes directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale. En fait, le poids de ces décisions retombe sur les consommateurs. Vous l'avez même vous-même suivi. Et en tant qu'économiste avéré, ce n'était qu'évident. Non seulement la population doit débourser plus pour se ravitailler en carburant, mais ipso facto, la hausse des prix du carburant va entraîner sûrement l'augmentation de presque toutes les denrées alimentaires et autres services. Vous êtes le directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale. Comment le ministère entend gérer cette situation?
Oui, madame, d'abord, par rapport à la préoccupation soulevée, il y a lieu d'abord de retenir une chose, c'est que on dit gouverner, c'est prévoir.
Oui.
Et le cas actuel a nécessité dans le chef du gouvernement d'abord une analyse de la situation avant de prendre la décision. Je voudrais tout simplement renvoyer les différents auditeurs avec qui nous échangeons au cadrage macroéconomique. Et je suis content de constater que les mêmes auditeurs nous ont posé des questions sur l'information qui aurait dû circuler avant que la mesure ne soit prise. Mais seulement, je voudrais dire que maintenant, ici, nous sommes en pleine session budgétaire. L'Assemblée nationale est en train de débattre du budget de l'État. Et dans ce budget, on parle de tous les aspects et tous les problèmes qui concernent. Je peux dire que la hausse de prix ici qu'on a observée a ses conséquences budgétaires. Les conséquences budgétaires, vous l'avez dit d'ailleurs à l'introduction, c'est les appuis budgétaires que nous devons recevoir et même l'impact de l'augmentation de prix sur la fiscalité. Comme vous le savez parce que vous suivez, le cadre macroéconomique actuel a prévu 70 milliards dans le budget 2011 par rapport à cette augmentation, et cela induit par l'élimination de cette prise en charge qu'assumait le gouvernement depuis bien longtemps. Et vous comprenez que pendant quand tout le monde se mettait à tout le pays augmenter le prix, mais au niveau de la RDC, par souci, la préservation du pouvoir d'achat de la population dans un contexte de crise financière internationale, n'oubliez pas, 2008-2009, ça a été une période très difficile pour tout le monde, Le gouvernement a préféré prendre en charge et ne pas gêner le pouvoir d'achat de la population. Maintenant que, petit à petit, on est en train de sortir de la crise, il fallait quand même que nous puissions aller vers les repères du programme que nous avons nous-mêmes. Le programme, ce n'est pas le programme du Fonds monétaire, c'est un programme du Congo, la RDC. Alors, quelles sont les mesures que nous avons prises pour accompagner, éviter que la hausse des prix? J'ai dit, cette année ici, si vous regardez les cadres macroéconomiques, on prévoyait un taux d'inflation de 15%. Ce taux, à la suite de mesures d'une gestion orthodoxe des finances publiques et de l'application d'une politique monétaire prudente, nous avons réussi à baisser les niveaux de crise intérieure à quelque chose comme 9,9% d'inflation attendue à la fin de l'année. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, nous sommes à moins 8%. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'impact de cette augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe, évidemment, entraînera une hausse des prix intérieurs. Mais les scénarios faits indiquent que nous n'allons pas dépasser les 15% du taux d'inflation qu'on avait retenu au départ dans les cadres macroéconomiques.
Mais s'il vous plaît, monsieur le directeur de cabinet, avant que nous puissions revenir sur ces éléments du cadre macro et économique qui souvent sont aussi un peu difficiles à expliquer à la population parce qu'elle, son souci, c'est de pouvoir avoir un possédé de monnaie qui a un prix d'achat assez fort, avoir accès à la santé, à l'éducation, c'est un peu ça le souci de cette population. Revenons d'abord à la communication, parce que du coup, le matin, une personne se lève, elle va à la pompe d'essence, ça a augmenté. Qu'est-ce qui a manqué pour peut-être prévenir un mois, deux mois avant que les prix allaient augmenter?
Non, ce n'est pas que qu'est-ce qui a manqué. Vous avez suivi, vous savez, l'augmentation des prix est même plusieurs fois. Le ministre de l'économie nationale avait reçu la pêche congolaise. Or, la menace de l'augmentation à la pompe, c'était là. Je dois vous dire que déjà, en octobre 2009 et fin janvier 2010, il y avait ce souci d'augmenter le prix à la pompe. Le ministre de l'économie nationale avait réussi les gens. Avait réussi la presse pour expliquer et pour dire qu'il s'arrange pour ne pas augmenter les prix à la pompe.
Mais maintenant que c'est augmenté, pourquoi pas une semaine avant prévenir la population que dans 6 jours, nous allons augmenter le prix au regard de tous les facteurs et les paramètres que le ministère lui-même a soulevé.
Oui, ça veut dire que bon, ce qu'il faut, il faut retenir d'abord, dans cette résistance de ne pas augmenter le prix, les scénarios étaient en train d'être réalisés pour voir si cela était faisable. Dans l'entretemps, nous avons des repères du programme économique du gouvernement. Dans ce repère, on vous dit, il y a des dates, une date qu'on vous dit qu'à telle date, tel repère structurel ou tel repère quantitatif ou tel repère qualitatif du programme économique du gouvernement devra être réalisé. À l'absence de la réalisation de ces repères à telle date, vous risquez de rater un tirage quelconque dans le cadre du programme économique du gouvernement. Or, dans nos échanges, parce que vous savez, la décision d'augmenter le prix des produits pétroliers, quand bien même c'est la compétence du ministre de l'économie nationale, mais il faut l'implication de tous les gouvernements entiers. Donc, le temps que le scénario soit finalisé au niveau du ministère, que le CUPUS, les autres membres du gouvernement intervenant dans la décision d'augmenter, soient informés et réagissent aux propositions, aux différentes propositions du ministère de l'économie nationale, nous nous sommes retrouvés en face de l'échéance. Voilà ce qui a expliqué que le samedi, nous puissions, après qu'on ait retenu et qu'on ait analysé les mesures d'accompagnement susceptibles d'encadrer cette hausse de prix, peut-être induite par cette augmentation de prix à la pompe, eh bien, nous étions obligés de le faire en bas de 17.
Nous allons revenir à ces mesures d'encadrement, mais aussi une préoccupation. C'est vrai que vous avez jugé bon de les tirer à partir des produits pétroliers. Pourquoi pas dans un autre secteur? Parce que les produits pétroliers, ça va entraîner la hausse de tous les autres prix. Pourquoi pas, au cours du Conseil des ministres, à penser à d'autres produits que celui-là qui est assez sensible?
Non, mais je crois que je l'ai dit au départ, hein, que nous exécutons un programme ensemble avec les partenaires extérieurs. Or, ce programme a ses réalités. Entre autres, la vérité des prix. Je vous ai dit également que le pétrole était pris en charge par le gouvernement pendant tout ce temps. Or, dans le cas du programme, il ne nous est pas autorisé, ce qui est normal, parce que bon, nous sommes dans une économie libérale. Hein? Il n'est pas normal que nous continuions à prendre en charge. Donc, logiquement, la mesure, elle, n'a pas seulement une vocation fiscale, mais elle a également une vocation économique, ça veut dire revenir à ce que le marché soit dicté par la loi de l'offre et de la demande.
Voilà. Alors, nous allons écouter d'autres auditeurs. Nous avons Steve qui est à Béni et Béna de Kinshasa. Entre-temps, restons en ligne, M. Fikiri, pour poursuivre cette émission.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Steve.
Bonjour.
Et quelle est votre opinion par rapport à cette hausse de prix des produits pétroliers?
Oui, nous regrettons parce que normalement ici c'est nous à Béni, il n'y a pas un service qui peut même informer la population de qu'il y aura la hausse de prix. Donc le prix est fixé seulement selon les commerçants, les agents économiques. C'est ça la plus grande. C'est de nous regretter, nous n'étions pas dans ce domaine. Donc, il n'y a aucun service qui est chargé d'informer la population qu'il y aura hausse des prix, il y aura ceci. Et la question, c'est ma question, c'est que je me suis posé, donc, ce programme-là qui vient lancer, est-ce que ça va s'étendre dans toutes les provinces, ou ça, c'est seulement la ville qui fait ça? Donc, ça ici, bien évidemment, nous regrettons.
S'il vous plaît, quand vous parlez du programme, vous parlez de quel programme? Parce que les partenaires, lorsqu'on parle du budget national, c'est pour tout le pays. Est-ce que vous pouvez spécifier de quel programme vous faites allusion?
Oui, je n'ai dit que donc, en plus, on va avoir un service qui va faire transformer la population. Il y aura aussi des prix qui vont vous fixer les prix. Et non pas les économistes, les hommes d'affaires, eux-mêmes, si c'est le prix, bon, vraiment, ça, c'est au détriment de la population. C'est ça ce que j'aimerais dire.
Donc, vous pensez qu'il y a une spéculation sur le marché et vous déplorez le déficit de communication?
C'est ça ce que je déplore vraiment.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve de Béni, pour votre intervention. Nous allons écouter Béna. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes ici à Kinshasa. On vous écoute.
Ok, madame, je suis en train d'intervenir avec beaucoup de regrets. Je vois que notre gouvernement a ses failles comme tous les gouvernements du monde. Mais il doit quand même prendre soin à entretenir les secteurs les plus sensibles sur le plan social. Madame, si vous êtes à Kinshasa, passez chaque fois au marché central à 17h16. Vous verrez une population massive comme un défilé qui quitte le marché central jusqu'au 18e rue Limité, voire des bonnes pommes pour avoir le transport. Ça avant que le prix du carburant ne soit augmenté. Aujourd'hui, tous les agrégats macroéconomiques de l'invité en train d'expliquer à la population qui ne comprend rien, n'ont aucun impact sur la réalité. Mon intervention, c'est la population toujours subit. Je suis en train de donner une recommandation assez simple à la population, enfin au gouvernement. C'est bien qu'il y a des difficultés au pays, mais qu'il sache que le peuple a toujours compté dans une certaine mesure sur sa créativité dans les domaines économiques. Vous parlez là-bas qu'il fallait prévenir la population une semaine ou autant. avec quel pouvoir d'achat vous allez. Moi, je trouve que le prévenu égard n'est pas le prévenu, vit en misère. Avec quel pouvoir d'achat, si vous dites dans une semaine les carburants vont monter, ils vont augmenter le poche comment? Qui seront payés dans une semaine? Et même s'ils seront payés leur salaire là, comment ça va s'augmenter jusqu'à résoudre un problème de carburant qui monte? Donc le problème que nous avons sont vraiment difficiles, mais un peu de volonté pour le secteur le plus sensible. Et j'insiste sur le secteur le plus sensible, le transport public par exemple. Je vous ai entendu au départ parler du déficit budgétaire, tout ça. Quand on présente le budget au gouvernement, nous tous, étudiants, citoyens simples, fonctionnaires, nous regardons la télé au Parlement. Combien on nous a parlé des recettes de produits pétroliers ou qui augmentent le budget. Donc, madame, c'est un message de pitié à la population et une recommandation assez sincère au gouvernement d'entretenir ne fût-ce que le secteur le plus sensible pour la vie sociale. Les agrégats que vous allez expliquer là-bas n'ont rien à voir avec une maman qui habite un Pasa ou Kinsuka là-bas, qui n'a pas étudié. En économie, monsieur est là, les autres invités, on dit toutes choses existantes égales par ailleurs. Cela veut dire quoi? L'impact d'une hausse d'un produit est arrivé partout. Aujourd'hui, même les nous avons monté à cause de chiffres de carburant. Mais pourquoi le gouvernement n'a pas la volonté, ne fût-ce que d'entretenir ce secteur-là, pour que la population se sente le moins à l'aise, rien que pour le transport? L'émission, en tout cas, me donne moins de l'émotion, mais je sais que la solution n'est pas l'explication économique là-bas, pour le petit peuple. Notre gouvernement, s'il veut vraiment aider, qu'ils préviennent ceux qui n'ont pas étudié, ceux qui ne comprennent rien des agrégats de l'économie là, qu'ils voient quelque chose de concret. Nous produisons le pétrole ici. Il suffit d'avoir des attentes réelles avec les bailleurs de fonds. On est ainsi observateur de voir que si le gouvernement dit les bailleurs de fonds, ceci, nous ne sommes pas capables de produire nous-mêmes tout ça, c'est toujours manque de volonté. Parce qu'il y a toujours du moyen lorsqu'il y a la volonté d'aider. Maintenant, la vie nationale et tout ça, ça va être compliqué. Mais nous allons finir à l'émission, là, chacun donne un point de vue et la donne reste la même.
Mais à votre avis, est-ce qu'il faudrait se taire, qu'on arrête qu'il n'y ait plus ce genre d'émission, ou il faut continuer à parler et donner des idées?
J'encourage les émissions, madame. Peut-être que c'est l'émotion qui me fait dire ce que vous comprenez autrement. C'est important, parce que c'est à cette émission que vous m'écoutez m'exprimer.
Mm-hmm.
C'est à cette émission que vous... En tout cas, nous encourageons tous l'émission, et d'ailleurs, nous y participons chaque fois.
Mm-hmm.
Mais le problème, c'est que le gouvernement ait la volonté. Et entretenir, comme je reprends toujours, le secteur le plus sensible à la vie sociale. La réalité aujourd'hui, c'est que ceux qui quittent la femme, ils coûtent 500 francs ou 300 francs pour marché central. 600 francs, aujourd'hui, c'est 4, c'est 6, c'est 12 qui ont un peu de moyens, qui ont quitté toute la famille. Les autres, là, toutes les mamans qui se débrouillent pour la survie de leur famille n'ont pas quitté parce que le carburant a monté. Et le malheur, ce quoi, c'est que elles qui ne comprennent pas les agrégats de macroéconomique sont là en train d'attendre que monsieur nous explique, que le ministère dit ceci, cela, cela. C'est ce malheur-là qui m'intéresse, moi.
Merci beaucoup, Ben, pour votre intervention. Vous êtes ici à Kinshasa, votre souci est que le gouvernement puisse vraiment tenir compte de tout. Ces réalités, surtout pour ces populations qui n'arrivent pas à comprendre tous ces éléments, tous ces paramètres économiques pour la population, c'est se nourrir, se vêtir, avoir un transport facile, aller à l'école, se faire soigner. Merci Léna pour votre intervention. Nous allons écouter Théophile de Kananga, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Oui, et Théophile, quelle est votre opinion face à l'augmentation des prix des produits pétroliers?
Oui madame, mon opinion est presque la même que mes prédécesseurs.
Mm-hmm.
Je trouve qu'il est difficile madame, à ce qu'on vive même dans notre pays. Et nous avons honte de nous dire maintenant que nous sommes congolais. À telle enseigne que M. Figuri vient de vous dire très bien là-bas dans son introduction, il a dit « gouverner, c'est prévoir ». Prévoir, c'est-à-dire quoi? Nous venons tous d'être surpris par la hausse de prix de carburant au-dessus de l'écoute à la radio au Capi. Et le cause de cette hausse n'a pas été révélée à la population, même pas à vous, Radio Capi, qui êtes surpris comme nous. Nous ne devons pas vivre toujours dans un gouvernement de surprise. Monsieur Figuri parle des partenaires. Nous trouvons que le gouvernement congolais n'a pas de partenaires. Il est soumis à une subordination. Parce que les partenaires ont dit, et lui applique. Et quand même les partenaires ont décidé ça, avant qu'ils ne décident, ils devraient se concerter. Et le gouvernement, à son tour, devrait nous informer, parce que le gouvernement fait son budget annuel. Et tous les ménages, les panneaux de ménagères, les conseils, nous devrions aussi procéder à budgétiser notre programme, à faire notre petite finance publique, savoir qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, avant que cette hausse ne soit entendue. La monnaie a été toujours exposée à une inflation dans le temps, dont nous sommes incapables de déterminer les pourcentages. Et quand bien même, madame, actuellement, qu'est-ce qu'un peuple congolais peut faire? Mon attente était de dire que quand on a un gouvernement élu, nous devrions nous apaiser. Tous nos intérêts sociaux devraient être stabilisés. Mais dans le cas sous espèce, madame, il est difficile à ce que nous disons que nous sommes encadrés. Nos députés ne font que la tête de résonance. Ils ne savent pas réagir. Tout ce que nous disons, c'est ce que nos députés devraient dire. Depuis que la parole aux éditeurs est accordée aux Congolais, et quand bien même sous examen de ces cas, combien de députés sont intervenus? Combien de sénateurs sont intervenus? Ils les laissent toujours à la population, alors que ce sont ceux qui devraient se précipiter à prendre la parole pour qu'on sente qu'on est défendu.
S'il vous plaît, Théophile, n'oublions pas que parole aux auditeurs, c'est auditeur, député, sénateur, c'est d'abord un auditeur, donc c'est d'abord à vous la parole. Vous savez très bien que les sénateurs et les députés, ils ont leur tribune au niveau du Parlement. Mais Théophile aussi, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que le gouvernement quand même a expliqué cette hausse de prix, hein, différentiel sur le prix réel et le prix du carburant, le prix pratiqué à la pompe. Mais nous quand même, on vous a suivi au regard de toutes les réalités que vous vivez à Kananga. Et ce que vous pensez de cette hausse de prix? Merci beaucoup Théophile pour votre intervention. Nous avons Patrice Pankou, il nous écrit aussi de Kananga, il nous écrit ceci: sans les produits pétroliers, la RDC ne peut pas vivre. Les dirigeants doivent veiller à ce phénomène de la hausse, car le transport et l'électricité des privés posent des problèmes en ce moment que l'État ne supporte plus l'électricité. Nous allons accorder la parole à notre invité, M. Dieudonné Fikiri Alimasi, il est directeur de cabinet du ministre de l'Économie nationale, avant qu'il ne puisse réagir face aux préoccupations de cette deuxième série d'auditeurs. Nous prenons Séraphin Douvira. Bonjour Séraphin. Séraphin? Nous avons perdu Séraphin Douvira.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Fikiri, vous avez la parole, vous avez suivi la seconde série d'auditeurs, les préoccupations, en tout cas, cette hausse de carburant n'est vraiment pas la bienvenue au niveau des populations, pour ceux du moins qui sont intervenus dans Parole aux auditeurs. Qu'en pensez-vous? Monsieur Fikiri? Nous avons aussi perdu notre invité. Nous allons essayer de pouvoir le recontacter pour qu'il puisse donner son point de vue, comment réagir face aux préoccupations des auditeurs. Il faudrait dire que aujourd'hui, Parole aux auditeurs est centrée sur la hausse des prix des produits pétroliers. Le gouvernement s'est désengagé de prendre en charge le différentiel pour le prix réel du carburant et le prix pratiqué à la pompe. La conséquence, le prix du carburant connaît une hausse de près de 20%. Par exemple, à Kinshasa, actuellement, le litre d'essence se vend à 1150 et 1140 pour le gazole contre 980 à 970 francs. À Kisangani, à Mbujimayi ou dans d'autres villes de la RDC où il faut ajouter le transport de ces produits, le litre se vendait à près de 1300 francs et pour l'instant le litre avoisine les 2000 francs et d'autres même 2500 francs, voire même chez les cas d'affiliés revendeurs ça va jusqu'à 3000 francs. La décision du gouvernement est prise suite aux exigences des bailleurs de fonds qui estiment que le gouvernement doit trouver des ressources supplémentaires pour son budget national. Il faut noter que le budget de l'État congolais dépend souvent à plus de 45% des partenaires extérieurs. Cette hausse de prix des produits pétroliers entraîne l'augmentation du prix du transport, mais aussi le coût des produits alimentaires et ceux de première nécessité. La question, quelle est votre opinion à ce sujet? La réalisation vient de me faire signe que notre invité est de nouveau en ligne, M. Dieudonné Fikiri. J'espère que cette fois-là, vous êtes au bout du fil. Encore là, on n'arrive pas à joindre notre invité, mais Nicole Ngata et Pierre Lamégi ainsi que Eric Sidiaka là, sont en train de se battre pour pouvoir le recontacter. Et si vous voulez participer à cette émission, n'oubliez pas, c'est le 081-890-6315, le 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Vraiment, aujourd'hui, nous avons des problèmes de connexion, mais quand même, on a pu recontacter Séraphin. Séraphin, si vous êtes au bout du fil, il y a un retour. Est-il possible de pouvoir éteindre votre poste récepteur qui est à côté de vous, ce qui vous permettra de pouvoir intervenir et de pouvoir vous suivre sans problème? Si c'est votre téléphone qui est à main libre, essayez, s'il vous plaît, de pouvoir éteindre et garder le téléphone parler normalement. Ça nous permettra de mieux vous écouter. Bonjour, Séraphin.
Bonjour madame.
Oui, vous écoutez à Kinshasa et quelle est votre opinion par rapport à cette hausse des prix des produits pétroliers?
Mon opinion c'est que les auditeurs qui nous ont précédés ont presque épuisé la préoccupation que nous avons soulevée. Néanmoins, j'allais d'abord demander à notre invité s'il peut encore revenir d'adapter un langage un peu plus simple comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, pour permettre à une large opinion de comprendre un peu tout ce train de mesures que le gouvernement essaie de prendre. En d'autres termes, la vie, nous pensons qu'il est quand même regrettable que le gouvernement ait pris ce genre de mesures sans pour autant qu'il y ait, excusez-moi la technologie, des mesures d'encadrement. C'est-à-dire que les effets, aujourd'hui, c'est la population qui le paye. En fait, quand il y a eu désengagement. Quand quelqu'un se désengage, il est supposé que donc c'est l'autre partie. Et l'autre partie, c'est le faible. Donc c'est la population qui était dans en train de faire. Donc la solution, à l'autre end de vie, devait venir à des autorités, par exemple, qu'on nous dise effectivement, par rapport à ça, les autorités, toutes les autorités plutôt, ont diminué leur train de vie. Vous voyez, ça, ce serait une solution palliative. Et les autorités, eux, diminuent leur train de vie. Parce que, et ils ont plusieurs marges de manœuvre. Et ces populations, et tous ces fonctionnaires, les transports vont probablement augmenter, c'est ça a déjà commencé. Et sur les marchés, les effets sont déjà visibles. Et bon, les salaires ne vont pas bouger, ça c'est qui est sûr. Et voyez-vous, donc là où nous allons. Donc, la plupart des auditeurs qui sont intervenus avant, ils ont épuisé pratiquement ce que j'allais dire. Mais bon, si notre invité est là, nous demandons seulement qu'il adopte un langage assez facile pour permettre à tout le monde de comprendre et de tenir compte de cette observation-là. Ce n'est pas possible que le gouvernement décide lors d'un conseil des ministres extraordinaire que ce sont tous les ministres, tous les députés, tout le monde, hein, dans ce coin-là, qu'ils puissent un peu diminuer leur train de vie pour aller à cette situation. Voilà.
Oui, mais c'est certain, n'oublions pas, nous sommes près de 60 millions d'habitants. Le groupe gouvernement parlementaire, quand même, c'est pas assez signifiant. Hein, ils sont pas si nombreux que vous pensez réellement que si on arrive à réduire, par exemple, leur salaire ou leur émolument, cela pourra donner des recettes qui peuvent aider la population. Vous pensez que ce sont justement des mesures qui peuvent donner un signal fort dans la politique du gouvernement.
Oui, madame, en fait, vous et moi, nous ne voyons pas en dehors des fameux salaires et des émoluments, les autorités, et ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres marges de manœuvre et même ils savent. Des missions, des primes de ceci, de cela, des voyages, des soins médicaux, tout ça, ils le savent, madame. Et nous soyons 60 millions d'habitants, ces gens-là, ils gagnent et ils le savent, c'est plus que ce qu'on donne à cette population. Madame, il serait surprenant que vous appreniez que, par exemple, il y a des ADG, des sociétés qui gagnent le salaire qu'on peut payer, je dirais, je vais exagérer peut-être. Mais 4 000 fonctionnaires, j'ai dit bien que je peux exagérer, mais une seule personne touche ça. Il y a des ADG qui touchent, on va dire, 20 semaines après, ici, à la RVA ou à l'ONAFA, il y a des gens qui touchaient 28 000 dollars. Madame, si vous prenez le 28 000 dollars, vous prenez les salaires d'un fonctionnaire, vous avez une idée par rapport à ce que je dis. Ce ne sont pas des choses que j'exagère et il est avancé. Quand nous disons que donc, ça doit concerner tout le monde, que ces gens-là commencent à diminuer leur train de vie. Alors qu'on ne voit pas à travers les villes tous ces jeeps importés de partout qui agissent ici. Donc, il y a l'argent et il n'y a qu'au gouvernement de trouver la solution intermédiaire par rapport à cette situation que nous allons vivre.
Merci beaucoup, Serata, pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes ici à Kinshasa où vous nous suivez sur 103.5 MHz. La réalisation de cette film, cette fois-là, nous avons pu, on a pu recontacter notre invité. Est-ce que vous êtes là, monsieur Dedonné Fikiri? Oui, on a eu un problème vraiment de communication, ça n'a pas été vraiment facile. Les deux de la technique n'étaient pas avec nous, mais heureusement quand même, on a pu vous recontacter.
On s'est
retrouvés par la magie de la technique. Eh bien, j'espère que vous avez quand même suivi, en gros, les préoccupations de nos auditeurs, parce que là, encore une fois, ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'on arrive à augmenter le prix de carburant, mais aussi leur préoccupation, c'est qu'ils estiment que ça devait être une action un peu globale, parce qu'on augmente le prix de carburant, on n'augmente pas les salaires, les personnes ne se retrouvent pas, donc c'est autant de préoccupations. Et comment vous réagissez?
Bon, d'abord, madame, je prends la dernière intervention de l'auditeur qui a dit qu'il serait souhaitable que le gouvernement diminue son train de vie. Comme ça, bon, tout le monde se retrouve dans le paiement, au fait, du prix, l'augmentation de prix des produits pétroliers à la pompe. Mais je peux dire que je voudrais répondre et peut-être en profiter pour essayer de ramasser les différentes préoccupations, du moins pour les quelques-unes que j'avais retenues. J'ai dit ceci. Je pense que l'attitude du gouvernement est responsable, comme on dit, je l'ai dit au départ, vous venez de prévoir. Le gouvernement devrait arbitrer, d'une part, entre le rétablissement de la réalité économique, c'est-à-dire l'abandon de la prise en charge, pour être conforme aux exigences du programme économique, lequel programme nous procure des ressources budgétaires que notre propre économie n'a pas su produire, étant donné la gestion qui a caractérisé la décade et les décades passées, je peux dire.
Mais là, il y a un auditeur qui pense que c'était une subordination. Donc,
non, ce n'est pas une subordination.
Le gouvernement n'arrive pas à trouver d'autres solutions.
Non. Dans tous les cas, une chose est certaine, c'est que le gouvernement évalue d'abord son économie, constate les faiblesses et projette l'avenir économique du pays au regard de cette capacité à pouvoir impulser cette économie. Maintenant, dans l'évaluation, on constate que les capacités internes ne peuvent pas permettre d'atteindre l'objectif poursuivi. Ça se passe partout au monde. Quand, à partir de ses propres capacités de mobilisation au regard du niveau de son produit intérieur brut. Le gouvernement est incapable de mobiliser davantage de recettes pour réaliser les dépenses susceptibles d'induire la croissance économique qui garantit le bien-être de la communauté. Eh bien, le gouvernement recourt soit à l'emprunt sur le marché financier, chose qui nous est difficile, nous, qui sommes PPT, qui sont pays pauvres, très endettés. Nous venions d'avoir des points d'achèvement. Donc, le seul recours, c'est d'appeler les partenaires extérieurs, du Fonds et de la Banque mondiale, pour dire, voilà nos ambitions macroéconomiques. Parce que nous voudrions réduire la pauvreté. Et pour réduire la pauvreté, notre produit intérieur brut doit augmenter d'autant. Mais pour que ce produit intérieur brut augmente d'autant, il nous faut autant de ressources.
Oui, là, c'est pas autant de principes économiques. Là, les auditeurs ne vont pas vraiment se retrouver.
Il faut que la solution n'est pas dans la réduction du niveau de vie, du train de vie, comme il a dit. C'est vrai, le gouvernement doit s'ajuster pour certaines dépenses.
Oui.
Mais le souci doit être de garantir la croissance pour que tout le monde se retrouve. Voilà.
Mais cette fois-ci, un signal assez fort, parce que nous l'avons vécu dans d'autres pays, lorsqu'il y a eu cette crise financière. Nous avons appris, par exemple, en France, il y a cette mesure d'austérité. À Londres, on a appris qu'il y a des frais qui devaient revenir aux représentants du peuple qui ont été réduits. Mais pourquoi, des fois, ce genre de choses? Mais vous ne pensez pas que ce soit aussi un signal fort, comme l'a dit Séraphin, notre dernier auditeur?
Mais madame, ne croyez pas que dans un contexte d'austérité, les gouvernements ne suivent pas la cure de cette austérité. Ne croyez pas à cela. Parce que finalement, c'est d'une manière globale que tout se réduit. Et là-dedans, en interne, on désagrège la réduction suivant les niveaux. Donc, ne croyez pas que le gouvernement est en dehors de l'austérité, des mesures d'austérité. Ce n'est pas vrai. Si vous regardez, vous comparez les trains de vie de nos ministres à l'époque à celui de ceux d'aujourd'hui, je pense que la différence est nette.
Nous allons revenir, toujours sur le temps d'écouter d'autres auditeurs, mais lorsque vous allez revenir, si c'est possible d'avoir plus de précisions sur les mesures d'accompagnement face à cette hausse de prix des produits pétroliers, ce que le ministère de l'économie prévoit pour pouvoir encadrer cette hausse de prix. C'est vrai que nous sommes dans un marché libéral, donc ça dépend aussi essentiellement aussi de la loi de l'offre et de la demande. Le temps d'écouter Amédée de Lubumbashi et d'autres auditeurs, bien sûr, qui vont nous appeler au 081-899-6315. Parole aux auditeurs. Amédée, bonjour.
Bonjour, madame, et bonjour à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio
Okapi. On vous écoute. Quelle est votre opinion à vous?
Oui, madame, je crois que les experts ont quand même écouté presque tout ce que je voulais parler, mais j'ai quand même une certaine indignation de voir que nos dirigeants, les gens qui nous gouvernent, n'arrivent pas à comprendre réellement ce qu'ils doivent faire pour ce pays. Nous connaissons que le pays a beaucoup de difficultés, même les dirigeants ont beaucoup de difficultés pour diriger ce pays, mais il y a quand même des problèmes sensibles, très sensibles dans ce pays, que les dirigeants doivent quand même mettre vraiment de l'œil et comprendre. Bon. Le problème, la situation que le directeur du cabinet du ministre avait de nous expliquer avec ce terme économique. Pourquoi les termes économiques ne peuvent jamais servir à la population qui cherche des problèmes pratiques? Les termes économiques sont beaucoup plus théoriques. Et puis ça ne peut servir que quelqu'un qui a fait l'économie qui pourra comprendre. Même si celui qui a terminé l'université dans d'autres domaines, s'il n'a pas fait l'économie, il ne peut pas facilement comprendre ces termes. Alors, c'est pourquoi je voudrais demander à M. le directeur du cabinet du ministre d'adoucir un peu son langage, de chercher à l'expliquer d'une manière très simple, afin que la population puisse comprendre, parce qu'il est en train de parler d'un secteur là très sensible. Sans les carburants, on ne peut pas aller, on ne peut pas avoir les transports pour aller au travail,
On ne peut rien faire, hein, parce que le carburant, vraiment, c'est la plaque tournante de l'économie ici en RDC. Merci beaucoup, Amédée.
Aller au travail, le monsieur ne peut pas circuler pour nous amener des arrêts alimentaires passés par là.
Merci beaucoup, Amédée, pour votre intervention. Nous allons écouter Nimbo, il y a Kalima, c'est dans la province du Maniema. Bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
On voulait écouter Nimbo. Quelle est votre opinion par rapport à cette hausse de prix?
Oui, ici chez nous, à Kalima, le carburant d'abord était à 1600 francs congolais. Mais depuis que le gouvernement a pris une décision de fermer la cassérite, vous savez, ici chez nous, beaucoup de personnes se plongent à la cassérite pour avoir une somme d'argent. Et depuis que cette décision a été prise, on a quand même eu une difficulté. Par exemple, les frais étaient à 1.2. devient maintenant à 2 dollars ou à 1.8 parce que c'est les gens qui font, qui n'ont pas assez quand même de poids à récupérer ici chez nous à Kalima. Si ils ont venu peut-être avec des poids de marchandises, au retour, on commence à prendre les poids qui étaient disponibles dans des agences.
Mmh. Donc, au regard de cette situation, vous vous sentez carrément assisté et la vie devient plus difficile.
Oui, très difficile, madame, parce que beaucoup des hommes chôment. Comme les policiers commencent à fermer les actes exploits de la carcérité, par exemple, dans des déserts et aussi dans des chantiers, s'ils vous trouvent en train d'exploiter, ils vous ferment, ils vous disent, allez, rentrez à la maison. La vie, quand même, commence à venir un peu très compliquée parce que les gens commencent à chercher tout simplement l'argent. Maintenant, la formule est la seule d'exploitation.
Vous pouvez avoir de l'argent. Merci beaucoup, Nimbo de Kalima, en province du Maniema. Nous avons une nouvelle de qui vient du Bas-Congo, de notre collègue Guy Roger Niafala. Il nous apprend aussi que le prix de la course de taxi est revu à la hausse dans la ville de Matadi. Le prix est passé de 300 fois 400 francs congolais. Cette décision a été annoncée hier mardi par le maire de la ville à l'issue d'une rencontre qu'il a eue avec les représentants de l'association des chauffeurs du Congo, Bas-Congo, et certains responsables urbains de la division de transport et communication. Cette augmentation est consécutive à l'augmentation du prix du carburant, a déclaré Jean-Marc Ndeyidio, de 850 francs le litre d'essence se vend aujourd'hui à 1150 francs dans les stations de service. Et même dans d'autres provinces, il y a toujours des réunions, des rencontres pour voir comment, dans quelle mesure ils doivent ajuster les prix. Nous revenons à vous, notre invité, M. Dédoné Fikiri. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du ministre de l'économie nationale. Revenons à ces mesures d'encadrement. Qu'est-ce qui est en train d'être fait ou bien qu'est-ce qui est fait pour un temps pour pouvoir équilibrer les prix des autres denrées? Parce que là, ce sera un peu difficile. Nous savons que nous sommes dans un marché libéral, mais qu'est-ce que vous entrevoyez pour pouvoir un peu soulager la population, surtout que nous tendons vers les fêtes de fin d'année et c'est assez compliqué.
Très bien, madame. J'ai un petit problème parce que je plus comprendre que la plupart de auditeurs disent que je parle à des termes très économiques. C'est difficile de me suivre. Alors, donc, je voudrais vraiment que je vais chercher les mots, question d'aider à tout le monde qu'on se comprenne. D'accord? Alors, parmi les mesures d'encadrement, il y a d'abord, ça c'est au niveau de l'économie nationale, ce qui est envisagé, et cela devrait également s'étendre sur vers les autres ministères clés qui entrent dans le domaine de l'offre de la monnaie dans l'économie. Et je vais m'expliquer. Du côté du ministère de l'économie nationale, la première mesure porte sur l'analyse des structures de pays. J'ai compris que vous aviez une préoccupation, c'est celle de savoir que nous sommes dans une économie libérale et que ça serait difficile d'agir autrement. Mais je peux vous garantir que l'approche au niveau du ministère de l'économie nationale, c'est une approche basée sur la loi, sur les prescrits légaux. ce que l'économie nationale fait aujourd'hui, c'est tout simplement de prendre les structures de prix déposées par les opérateurs économiques qui ont l'obligation de les déposer, de manière à permettre au ministère de l'économie nationale d'analyser et de constater si, dans ces structures de prix, il n'y a pas une augmentation inconsidérée au regard de la loi de bénéfices. Ça voudrait dire qu'il a été constaté au niveau des structures de prix, il y a des surfacturations, il y a des marges bénéficiaires exagérées, là où la loi a prévu, par exemple, qu'un opérateur économique fixe sa marge bénéficiaire à 20% ou à 10% selon le produit. Mais il y a d'autres qui vont au-delà.
Mais la fois dernière, par exemple, vous avez essayé de faire cela avec les vendeurs de chinchard, les pieux qu'on appelle communément ici. Vous avez regroupé tous les opérateurs économiques, vous avez essayé de fixer un prix, mais ça n'a jamais été respecté.
Non, justement, parce que bon, aujourd'hui, je pense que bon, tout le monde doit se rappeler, le ministre de l'économie et le ministre des finances s'étaient retrouvés ensemble. Le ministre de l'économie a cédé au ministre des finances les pénalités que les opérateurs économiques qui étaient dans le coup de ce dont je viens de parler, à savoir dont les structures de prix ont accusé de faiblesse. Vous avez constaté qu'il y a des pénalités qui ont été arrêtées et qui ont été remises aux choses au ministre des finances pour recouvrement. Donc, pareille mesure, pareille approche, a l'avantage d'accroître sensiblement les recettes publiques et de diminuer le coût de l'offre de biens et services sur le marché. Ça veut dire le coût des marchandises, en fait, pour qu'on se comprenne, des marchandises que les gens mettent sur le marché. Donc ça, c'est une première mesure qui est en train de se faire. La seconde mesure, nous tous, nous avons suivi le budget qui a été débattu au niveau de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, ce même budget est au niveau de la Commission économico-financière de l'Assemblée nationale. Dans ce budget, si vous analysez, vous constaterez que les dépenses d'investissement, qui parlent des dépenses d'investissement, pensent tout de suite à l'augmentation des richesses.
Oui, s'il vous plaît, monsieur Fekiri, nous allons suivre ensemble ce bulletin d'information qui va être présenté d'un moment à l'autre et tout juste après, nous allons revenir à vous parce que là, vous êtes en train de parler de la deuxième mesure. Nous aurons encore 15 minutes après ce bulletin d'information.
Radio Capsule est aussi avec vous sur la solution, en direct avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parler, nous transmettons. Proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Chapu.
Et nous poursuivons Parole aux auditeurs dans sa seconde partie. Comme chaque mercredi, nous avons deux parties. La première qui commence à partir de 10h, heure de Kinshasa, jusqu'à 11h. Et la seconde partie, c'est de 11h03 jusqu'à 11h15. Et aujourd'hui, notre émission est centrée sur la hausse des prix des produits pétroliers. Et nous avons invité pour vous Monsieur Dieudonné Fikiri Alimassi, qui est directeur de cabinet du ministre de l'Économie nationale. Et tout juste avant ce bulletin d'information, Monsieur Dieudonné Fikiri est en train de nous parler, de nous informer des mesures d'encadrement pour que cette hausse de prix ne puisse pas avoir autant d'impact sur tous les autres prix sur le marché. Monsieur Fikiri, j'espère que vous êtes toujours au bout du fil. Et là, vous êtes en train de nous dire, de nous parler de la seconde mesure d'encadrement qui concerne le budget.
Voilà, donc je disais effectivement, madame, que nous tous, nous avons suivi les dépôts du budget au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce même budget est en train d'être débattu aujourd'hui au niveau de la Commission économico-financière de cette même Assemblée. Mais quand vous analysez ce budget, et je pense que la population devrait être curieuse, justement, de suivre ce genre de choses, parce que les différentes questions que je reçois à l'occasion de cette émission trouvent déjà des réponses dans pareil débat. Parce que dans le budget 2011, les budgets d'investissement représentent près de 34%. Et l'essentiel de ce budget d'investissement provient de nos partenaires extérieurs à travers les propriétaires. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'idée, c'est de booster, de pousser le produit intérieur brut qui garantit le revenu de tout le monde.
Et quand vous parlez du produit intérieur brut, donc c'est que la production interne soit augmentée.
C'est l'ensemble de production au niveau des différentes branches d'activité de l'économie qui passe d'un niveau X à un niveau Y d'une année à l'autre. Quand ça augmente, ça voudrait dire quoi? Vous avez votre activité, je prends un exemple, vous êtes dans le domaine du transport. Vous aviez 10 taxis à cause de l'impulsion d'investissement induit par l'État, parce que les taxis, l'infrastructure, il y a des routes et tout ça. Vous vous décidez d'acquérir d'autres véhicules. Quand vos véhicules qui s'évaluaient à 10 passent à 15, c'est un accroissement. Et quand on recense toutes ces augmentations dans les différentes activités économiques, c'est ça qui indique que maintenant que votre PIB, donc votre niveau de richesse, l'ensemble de vos richesses, des richesses nationales du pays, passe de tel niveau à un tel niveau.
Mais comme vous le savez, souvent lorsqu'on fait ces débats au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, souvent les parlementaires se plaignent de l'exécution de ce budget, ils estiment que le budget n'est pas appliqué. Est-ce que vous pensez que vraiment à ce niveau-là, il faudrait, en tant qu'économiste, il faudrait combien de temps pour que la population ressente enfin qu'un budget est vraiment social, que ça les aide et qu'ils peuvent s'en sortir?
Vous avez suivi maintenant aujourd'hui avec l'atteinte du point d'achèvement. Hein, les économies tirées de ces facilités doivent être dirigées vers les dépenses à caractère social. C'est ça qui a été retenu et qui constitue un repère du programme économique du gouvernement. De la même manière, la mesure d'augmentation de prix des produits à la pompe pouvait gêner les décaissements ou les ressources à obtenir des partenaires. De la même manière aussi, le fait de ne pas affecter les économies tirées de la somme de compte d'achèvement vers les dépenses à caractère social, c'est-à-dire l'école, l'éducation et la santé et autres, si cela n'a pas été fait ou respecté par le gouvernement, ça peut gêner également les décaissements. Donc, en fait, il y a une obligation dans le chef du gouvernement de commencer, d'ailleurs, vous l'avez suivi, dans le domaine de l'enseignement. Aujourd'hui, certaines mesures structurelles commencent à poser, à s'exécuter. On a commencé à parler de la gratuité d'enseignement au niveau primaire.
Sans oublier qu'il y a des grèves qui sont déclenchées à gauche et à droite en rapport avec tout ça.
C'est juste en rapport avec l'augmentation des salaires. Et je vous dis, si vous suivez les débats également, vous constaterez que, par exemple, en termes de rémunération, dans le budget 2011, les rémunérations ont connu un accroissement de près de 36%.
Oui, c'est monsieur le directeur de cabinet, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission. Oui. Nous allons écouter les deux derniers auditeurs. J'espère que Benoît et Kim seront vraiment brefs. Ils auront chacun une minute, parce que nous devons redonner la parole à notre invité pour conclure et pour savoir ce que nous pouvons retenir. Benoît, vous avez une minute, vous appelez à partir de Mombasa en province orientale. Que pensez-vous de cette hausse de prix?
Le problème n'est pas là. Mon problème, je viens juste m'adresser à l'invité pour lui demander les rangs des inspecteurs de l'économie que nous vivons dans nos territoires et dans les bureaux du district. Parce que souvent, vous allez trouver que, par exemple, les Beni est plus proche de l'Ouganda, nos carburants passent par l'Ouganda, et à Beni, par exemple, la moyenne du prix du carburant est déjà à 280, plus ou moins 280 dollars. À Bounia, plus ou moins 260 dollars l'essai, vous voyez que nous sommes au moins à 1215 par litre. Donc nous avons déjà subi cette augmentation dont vous parlez. Moi, je voudrais tout simplement savoir quel secteur ne peut pas faire appliquer. Où est-ce encore nous pouvons nous plaindre, nous autres, parce que nous nous souffrons, hein, que les inspecteurs sont souvent devenus complices des opérateurs économiques. C'est tout, merci.
Merci beaucoup, Benoît de Mambassa. Nous exposons Kiloulou de Kinshasa. On vous écoute, Kiloulou.
Bonjour, merci Marie-Chantal. Comment, pour être bref, je dirais que vous savez, toutes ces personnes-là, au fait de la naïveté de nos peuples congolais, à chaque fois, nous laissons à parler de quoi que ce soit qu'on nous propose, hein, n'importe comment. Les carburants augmentent, il y a des ceux qui vont profiter de l'IAF, et là, ils vont faire augmenter les prix.
Il y a une spéculation sur le marché. Merci beaucoup, Toulou. Vous souhaitez qu'on puisse quand même gérer cela pour que les prix ne puissent pas galoper. Nous vous remercions pour votre intervention. Nous redonnons la parole à notre invité pour conclure, mais aussi pour réagir face à cette dernière préoccupation de nos auditeurs. Monsieur Sikiri, vous avez la parole.
Je n'ai pas bien compris l'intervention, mais je crois que la première intervention a fait allusion, je crois, à la complicité des inspecteurs de l'économie générale.
Oui, c'est ça.
Oui, exact. Je crois que sa préoccupation s'inscrit dans les cadres de réforme en cours. D'ailleurs, le ministre de l'économie nationale a projeté un séminaire national avec tous les inspecteurs et tous les divisionnaires et tous les directeurs du ministère de l'économie nationale et de sélection de ça pour procéder à l'évaluation. Et également, il y a un plan d'embauche de jeunes économistes dans le secteur de manière à renouveler un peu la méthode de travail. C'est vrai que bon, cette préoccupation et cette plainte, nous l'avons toujours eu et nous avons intégré ça dans notre programme du développement du ministère de l'économie nationale. Alors, la deuxième, si vous pouvez me rappeler la deuxième question, parce que je ne l'ai pas bien...
Oui, il estime qu'il faudrait vraiment que les mesures soient assez fortes pour éviter la spéculation des prix sur le marché, surtout des opérations économiques.
Vous savez, face à une réalité économique, la spéculation ne résiste pas longtemps dans tous les cas. Maintenant que la réalité est une chose certaine, une de mesure, comme il vient de le dire, le seul secteur où on a encore des problèmes et nous voudrions également rétablir la vérité dans ce cadre-là, c'est au niveau de certains opérateurs économiques qui ont bénéficié des exonérations dans le cadre de l'importation de produits pétroliers. Parce que certains des opérateurs économiques bénéficiaires, ils ont bénéficié de cette facilité au regard du besoin de leurs activités pour faire évoluer leurs activités. Mais il se fait que, on a constaté que certains opérateurs bénéficiaires de facilité importent un peu plus de volume de produits qu'il ne faut pour leurs activités. Et les différentiels entre les deux, il les déverse sur le marché. Et là, il y a des mesures qui sont en cours pour empêcher cela et gêner ou entraver la spéculation qui peut s'observer.
Oui, et en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir?
En conclusion, je peux dire que bon, c'est vrai, on comprend que la mesure est douloureuse au regard de ses conséquences, mais nous pouvons également compter sur les dynamismes de la population congolaise, parce que je peux vous dire, pour accéder au point d'achèvement, c'était encore davantage beaucoup plus douloureux. Tandis que ici, le flottement que nous sommes en train de connaître maintenant, pour le mois de novembre, nous tâcherons de les encadrer à travers les mesures que je viens d'énoncer. Mais je pense que avec l'application du budget 2011 qui prévoit des augmentations comme des rémunérations, comme je l'avais dit, je l'ai signalé, qui prévoit également des montants importants d'investissement, nous pensons que le revenu par tête d'habitant, au regard de cette projection budgétaire, aiderait à atténuer les difficultés qui nous caractérisent dans cette période.
En tout cas, merci beaucoup, M. Dodoné Sikiri-Animassi, d'avoir accepté de pouvoir être notre invité au cours de cette émission. Nous remercions aussi tous les auditeurs qui ont participé et qui nous ont suivis. Surtout, n'oubliez pas que demain, nous allons prendre un nouveau rendez-vous avec Parole aux auditeurs et nous allons parler de cette poursuite d'expulsion des Congolais de l'Angola. Ces derniers se plaignent de subir des exactions et même des viols commis par les agents de l'ordre angolais. Il faudra aussi souligner que l'ambassade de l'Angola en RDC refute toutes ces accusations et selon les autorités angolaises, ces expulsés vivent en situation irrégulière. Quel regard portez-vous sur ces expulsions, les mouvements migratoires? C'est la question de notre émission de demain. Si vous voulez participer, vous pouvez réagir dès à présent. Nous écrivons à l'adresse internet ca@radiocafi.net. À la prochaine.